C'est intéressant ce que Pierre vient de dire parce que la dernière phrase que j'ai écrite sur ma prédication, c'est « N'ayons pas peur ». Ça va très bien. J'aimerais lire avec vous les trois textes sur lesquels nous allons méditer. Le premier texte, je pense qu'on pourrait être nombreux à le réciter par cœur. Psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et puis, dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, versets 1 à 11. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais s'y introduit par un autre endroit, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Alors Jésus leur dit encore, « en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira. » Et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et enfin, dans la première épître de Pierre, 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, juste le verset 25. Vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de votre âme. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous encore par ta parole ce matin. Amen. J'aimerais méditer avec vous ce matin sur à partir de cette question-là, j'aimerais ce matin nous partager un secret. Quel est le secret d'une vie abondante? Quel est le secret d'une vie humaine réussie? Quel est le secret d'une vie vraiment vécue? Le secret de la vie réussie, le secret de la vie abondante, le secret d'une vie humaine vraiment vécu, qui fait qu'à la fin de cette vie, quand on se retourne sur elle, on n'a plus aucune crainte, plus aucune honte, aucun regret. On sait qu'on a vécu pleinement ce pourquoi nous avons été appelés à vivre. Ça se résume en trois mots, suivre le bon berger. Et en français, le bon berger, ce qui est bon est forcément vrai. Et ce qui est vrai est forcément bon. Le bon berger, c'est le vrai berger. Il ne peut pas y avoir deux vérités, il n'y en a qu'une. Et le bon et le vrai berger, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et j'aimerais partager avec vous, à partir de là, sur trois choses. Ces textes que je viens de méditer Le thème du berger, vous savez bien dans la Bible, il revient tellement souvent. Jésus s'approprie ce nom. Je suis le bon berger, je suis le vrai berger. Et dans les textes que je vous ai lus, il y a trois états de vie qui sont décrits. Il y a un état que j'appellerai d'initial, qui est l'état de vie dans lequel nous sommes tous à un moment ou à un autre. Et puis il y a un état de vie qui devient un état plus personnel. Et enfin, il y a un état de vie qui est collectif et communautaire. Quel est cet état de vie initial? C'est ce que décrit Pierre. Vous étiez tous avant comme des brebis sans berger. Ce qui me frappe dans notre société aujourd'hui, c'est l'énorme majorité des frères, des sœurs en humanité que je côtoie sont des brebis sans berger. Je dis frères et sœurs en humanité parce que comme eux, je suis un être humain. Peut-être que la différence radicale, c'est que dans ma vie, j'ai eu la grâce d'entendre une voix qui a changé ma vie et qui a donné sens plein et entier à ce que je vis, à ce que je suis et qui a répondu à tous mes pourquoi. Et je vois aujourd'hui tous ces hommes et ces femmes, ces élèves que j'ai en tant que professeur, qui sont des brebis sans berger. Et qui sont prêts alors parce qu'un homme qui n'a pas un sens à sa vie, il est profondément malheureux. Et qui sont prêts alors à se soumettre. Parce qu'il faut bien que cette vie ait un sens à n'importe quel faux berger. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y en a? Le XXe siècle a été, quand j'y repense, a été le siècle le plus terrible de la démonstration de ce que c'est que d'être des hommes et des femmes sans berger qui suivent un faux berger. L'image pour moi la plus emblématique de cela, c'est Nuremberg. Où celui qui s'appelait le berger de l'Allemagne, le Führer, a été capable d'enjôler des foules par millions pour qu'elles le suivent dans la mort. L'horreur et l'enfer, dans l'inhumanité la plus complète. Saviez-vous que, et je l'ai appris par une cassette que m'a prêté Marcus, saviez-vous que Hitler, à Nuremberg, il avait copié le plan de la tribune sur laquelle il haranguait les foules, qui le saluaient toutes, sur le plan d'un temple qui avait été édifié pendant l'Antiquité à Pergame. Et ce plan, ce temple de Pergame, c'était un temple à un faux dieu. C'est le temple qui est décrit dans l'Apocalypse comme le trône de Satan. Et un siècle avant Hitler, un archéologue allemand avait retrouvé ce temple, avait fait des fouilles. Il avait fait une maquette de l'autel de ce temple. Et Hitler a pris cela comme modèle pour faire son stade à Nuremberg, où il prêchait. Il prêchait depuis le trône de Satan. Combien de faux bergers suivons-nous aujourd'hui? Je me souviens d'un professeur qui a marqué une génération de philosophes en France, le professeur Althusser. Vous ne le connaissez peut-être pas, il enseignait, je crois que c'était à Normale Sup et au Collège de France. C'était une sommité intellectuelle. C'était un professeur athée, marxiste militant. Il s'est suicidé. Il a été le berger de tous les jeunes profs de philosophie des années 60 aux années 70. Il s'est suicidé. C'était un homme qui a fini sa vie lamentablement. Combien de faux bergers aujourd'hui sont là? Pourquoi les suivons-nous? Pourquoi tous ces hommes et ces femmes, ces frères et ces sœurs en humanité les suivent? Parce qu'une vie qui ne trouve pas un sens, une vie qui ne trouve pas une raison de vivre, elle est désespérante. Et du coup, comme le disait le philosophe Pascal, on va se noyer dans les distractions pour oublier. Et aujourd'hui, que de distractions pour oublier que notre vie n'a pas de sens. Merci la télévision. Merci les jeux. Merci Ruquier. Merci les amuseurs publics. Merci le football. Tous ces amusements qui nous distraient du vide de nos vies et qui les remplissent par de la vanité et par du vent. Quelle tristesse que des vies gâchées et perdues, comme infâme qui travaille en hôpital, voit les gens mourir, des gens qui meurent terrorisés. Parce que quand ils se retournent sur leur vie, ils n'ont rien vécu. Et quand ils pensent à leur mort, ils n'ont aucune espérance. C'est terrible. Mais c'est la condition humaine aujourd'hui. C'est ça le progrès. On n'a jamais été aussi vide qu'aujourd'hui. Jamais. Des peuples sans berger. Et du coup, ils sont prêts à suivre n'importe quel faux berger, n'importe quelle personne qui va leur dire « Mais si tu me suis, tu vas trouver le sens de ta vie. Et tu vas voir, si tu me suis, ta vie aura du sens, aura du prix. » Vous étiez tous comme des brebis sans berger, des brebis égarées. Mais voilà, que dit Pierre ? Vous avez entendu la voix du vrai berger. Et justement, Jésus, toute la Bible nous le dit, il est le vrai berger. Et déjà, David, dans le psaume 23, je me suis posé la question, à quel moment de sa vie David a écrit ce psaume ? Vous savez que il y a des psaumes, on voit très bien à quel moment David les a écrits. Et le psaume 23, par exemple, il a écrit, il est marqué, le psaume 23, le psaume 51, il l'a écrit juste après avoir fauté avec la femme d'Uri, etc. C'est marqué, il a écrit ce psaume après cet événement. Donc il y a des psaumes qui ont été écrits à des moments précis de sa vie. Le psaume 23, je me suis dit, est-ce que David a pu écrire cela au début de sa vie ? Ou est-ce qu'il a écrit plutôt en fin de sa vie avec un regard sur toute sa vie passée en disant « Et voilà ce que j'ai vécu. » Parce que dès ma jeunesse, j'ai adhéré et j'ai suivi l'Éternel qui est mon berger. Et je n'ai manqué de rien. Même quand j'ai passé la vallée de l'ombre de la mort, il était avec moi. Quand j'étais entouré d'ennemis, il tournait ses ennemis en ma faveur. Et il me sortait des guet-apens. C'est comme si David faisait un bilan de sa vie. Il exprima alors ce qui était au cœur de sa vie. « Mais Seigneur, je veux vivre avec toi tous les jours de ma vie. » Suivre le bon berger, c'est trouver le plein épanouissement de ce pourquoi nous avons été appelés à la vie. Et quelle grâce si on peut suivre et entendre cela dès notre plus jeune âge. Alors, pourquoi continuer à parler des trois états, l'état initial, l'état d'être sans berger ? Parce que justement, une fois que on a entendu l'appel du bon berger, il y a deux états de vie dans lesquels le Seigneur va nous construire. Il y aura toujours un état personnel, il y aura toujours une dimension collective et communautaire. Parce que voyez-vous, si Jésus se présente comme le berger, c'est qu'un berger, normalement, il a des brebis. Nous sommes des brebis, si nous suivons le bon berger. Et j'aimerais tout de suite vous dire une chose. C'est que, clairement, le Seigneur nous dit qu'il n'est pas venu construire une bergerie, qu'il n'est pas venu construire un seul enclos, mais un seul troupeau. Et la différence est de taille, vous allez comprendre pourquoi. Alors, notre état personnel, lorsque nous avons entendu l'appel du bon berger, devenir une vraie brebis, c'est finalement entendre cette voix de bon berger et apprendre à lui obéir. Une brebis, en fin de compte, elle entend la voix du berger et elle lui obéit. Parce qu'elle a appris à reconnaître cette voix parmi toutes les autres voix qui pourraient lui donner des ordres ou qui pourraient l'appeler. Une brebis d'un troupeau, elle connaît la voix de son berger. Et elle est prête toujours à lui obéir. Si le berger lui dit « sors », elle sort. Si le berger lui dit « entre », elle rentre. Si le berger lui dit « mange », elle mange. Si le berger lui dit « attention, fais attention », elle fait attention. Elle obéit au bon berger. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, frères et sœurs ? Est-ce que nous obéissons à des lois ? Est-ce que nous obéissons à une doctrine ? Ou est-ce que nous obéissons à une personne ? Que Dieu nous libère de toute obéissance à quelqu'un d'autre. Parce que Jésus, il est mort ou il est vivant ?
Il est vivant.
S'il est vivant, il parle. Et s'il est vivant, tu peux l'entendre. Le berger a une voix, et toute notre vie chrétienne, toutes les exhortations qu'on peut recevoir, c'est pour nous apprendre à identifier encore plus précisément la voix
la tonalité, le son de la voix de Jésus. Je vous avais déjà partagé une fois cet enseignement quand Jésus est au désert. Vous savez qu'il est conduit au désert après son baptême. Qui le conduit au désert ? L'Esprit-Saint, pour être tenté par Satan. Et à chaque fois que Satan le tente, qu'est-ce que Satan cite ? Les Écritures. Vous êtes d'accord avec moi ? Les Écritures, c'est la parole de Dieu. Comment se fait-il que Jésus n'obéit pas aux Écritures ? Parce que la voix qui cite les Écritures n'est pas celle de son Père. Jésus connaît l'intonation de la voix de son Père. Oui, c'est bien l'Écriture que tu cites. Mais la voix qui me les cite, ce n'est pas celle de mon Père. Parce que moi, mon Père, je le connais. Jésus, tous les jours, il allait prier. Tous les jours, il se mettait à part pour écouter la voix de son Père. Pour reconnaître la voix de son Père. Pour entendre la voix de son Père. Et l'identifier parmi toutes les voix qu'il pouvait être. Vous savez, à l'époque de Jésus, comme aujourd'hui, combien parmi nous peuvent s'emparer de la parole de Dieu pour prêcher dessus, pour enseigner dessus ? Et ce ne sera qu'une parole humaine. Quand peut-on dire qu'une parole qui est dite est vraiment une parole de Dieu ? Si nous n'avons pas l'habitude, si notre cœur n'est pas habitué à entendre, à reconnaître la parole de Dieu. Alors, une brebis, elle connaît le son, la tonalité, elle connaît la voix de son maître. Je m'étais dit, si on avait le temps, ce serait intéressant que les plus anciens parmi nous puissent dire à quel moment de leur vie ils ont su que telle parole qui était dite n'était pas dite par le prédicateur, mais était vraiment dite de la part de Dieu pour eux. C'est qu'il y a des moments dans ma vie où j'ai vraiment entendu Dieu me parler. Non pas, frères et sœurs, comme s'il était face à moi de me parler, mais cette parole a tellement percuté et bousculé le cœur et ma vie, elle a tellement éclairé que j'ai su que c'était une parole de Dieu pour moi. Et quand je reviens à cette parole, je reviens comme à une pierre fondatrice qui éclaire encore ma vie. Même si toutes les autres paroles ont pu être dites avec, je dirais, beaucoup d'amour, beaucoup d'authenticité, c'est celle-là qui m'a touché. Juste une anecdote, comme un témoignage. J'ai vécu ça cette semaine, mais je ne rentrerai pas dans les détails. Quand je me suis converti, quand je suis revenu au Seigneur, quand je suis revenu au bon berger, que j'avais eu la grâce de grandir dans une famille chrétienne. Et mes parents m'avaient mis dans un enclos pour me protéger. Cet enclos, c'est l'Église. C'est le seul rôle de l'Église, c'est d'être un enclos pour nous protéger et pour apprendre à identifier la parole du Maître. Mais Jésus n'est pas le mur, Jésus n'est pas l'enclos, Jésus c'est la porte. On rentre et on sort. Et j'avais grandi dans cette Église qui m'avait permis, finalement, d'apprendre à identifier la voix du Maître. Jusqu'au jour où je l'ai entendu. Et le Seigneur m'avait donné, c'est une période de ma vie où j'étais pas bien du tout. J'avais mal. J'avais fait des mauvais choix. J'avais suivi un autre berger. Et je m'étais égaré. Et alors, un peu comme le fils prodigue, je vous l'ai déjà raconté, j'ai crié vers Dieu. Et j'ai vu que Dieu était prêt à me réaccueillir. Je suis revenu vers lui. Il m'a donné dans la Bible cette parole. C'est une parole que vous retrouvez dans les Proverbes. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Et ton espérance ne sera pas retranchée. Cette parole, ça fait 40 ans. Qu'elle est gravée dans mon cœur et qu'elle éclaire ma vie. Comme si ça avait été marqué, vous savez, comme une blessure d'amour. Elle est toujours là. Et cette semaine, je prie et cette parole me revient. Je ne savais pas pourquoi. Il m'est arrivé un événement cette semaine qui a montré que le Seigneur me dit, tu vois cette parole que je t'ai donnée il y a 40 ans. Il y a vraiment de l'espérance pour ton avenir. Aussi bien humainement que spirituellement, je suis avec toi. J'ai vécu une grâce cette semaine que je ne pensais absolument pas vivre. Dans ma carrière professionnelle, c'est un détail. Je ne m'y attendais pas du tout. Le Seigneur m'a redonné ce verset 2 jours avant, en lisant la parole. Et ça a résonné dans mon cœur. Elle est revenue, cette parole, dans mon cœur, activée par ce que Dieu me faisait vivre, comme une parole que mon père m'avait donnée il y a 40 ans. Il y en aurait beaucoup d'autres que je pourrais vous citer comme ça. Et je suis convaincu que parmi nous, même les plus jeunes, vous avez déjà entendu des paroles qui ont percuté votre cœur comme ça, et qui sont pour vous des paroles du bon berger, qui vont éclairer votre vie. Alors les brebis entendent sa voix et reconnaissent sa voix. « Toi, suis-moi », a dit Jésus. Souvent, cette parole-là, on l'entend dans notre vie. « Toi, suis-moi, ne suis pas une doctrine, ne suis pas une théologie. C'est nécessaire tout ça, mais toi, suis-moi, toi, suis-moi. Suis le bon berger. L'état personnel, c'est de devenir une brebis dépendante de la voix du berger. Petite anecdote aussi, à votre avis, est-ce que le berger, hein, est-ce que Jésus, il a un chien ? En général, un berger, il a un chien. Vous savez ce qu'il fait, le chien de berger ? Il ramène les brebis dans la bonne direction et surtout, il vient mordiller les jambes. Alors, je vais oser cette comparaison. C'est une comparaison. Le chien de berger, c'est le Saint-Esprit. Vous savez que Calvin parlait du témoignage intérieur du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, en nous, il vient titiller notre conscience et nous mordiller là. Quand on s'éloigne un petit peu du chemin. Il vient aussi nous mordre pour nous y ramener. Il vient aussi nous faire réentendre. Souvenez-vous, l'Esprit du Seigneur vous enseignera toutes choses nouvelles. Il vous rappellera les paroles du Seigneur. Il est un peu le gardien qui nous permet de rester à la suite de Jésus. Et il vient titiller notre conscience quand nous sommes à l'écart et quand nous nous éloignons du chemin du Seigneur. C'est pourquoi Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Laissez-le vous conduire. Il est, entre guillemets, cet auxiliaire du Seigneur pour vous aider à rester dans le troupeau à la suite du bon berger. Alors justement, et le temps passe, ça va, il y a encore un peu de temps. Justement, l'état collectif. Jésus dit clairement, qu'il y a un seul troupeau et pas un seul enclos. Je me suis posé la question. Jésus dit qu'il est la porte, il ne dit pas qu'il est le mur. Moi, si je veux protéger quelqu'un, je construis une forteresse. Je fais des murailles. Et je mets ces personnes dans cette enceinte, et ils sont protégés. Et surtout, je mets une porte bien gardée. Jésus nous dit qu'il est la porte. Il ne dit pas qu'il est les murs. Il dit que ses brebis sont dans un enclos. Mais elles peuvent entrer et sortir pour trouver leur nourriture. Ça m'a interpellé. Qu'est-ce que ça voulait dire par là? À qui s'adresse Jésus dans l'évangile de Jean? Il s'adresse aux pharisiens. Les pharisiens sont les gardiens du peuple. Ils mettent autour du peuple un enclos vraiment solide. C'est l'enclos de la loi. Si tu obéis à la loi, tu es gardé par elle. Et si tu obéis à la loi, strictement, tu es forcément dans l'enclos de Dieu, tu appartiens à Dieu. Mais Jésus ne va avoir de cesse d'aller au-delà de la loi, sans la nier, sans l'abolir. Il a dit lui-même, aucun, pas un iota ne sera tiré. Mais dans votre enclos, il faut une porte. Qui va aller chercher les païens? Qui va aller chercher ceux qui sont en dehors de l'enclos? Pour leur faire connaître la parole de Dieu. Il faut que vous sortiez de l'enclos par la porte que je suis, pour aller à la rencontre de ceux qui ne me connaissent pas, de ceux qui ne sont pas de cette bergerie-là. Jésus dit, j'ai beaucoup de brebis dans d'autres bergeries. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus, sans arrêt, non pas transgressait la loi, mais il passait au-delà de la loi, des murs de la loi, pour une simple raison. Qu'est-ce que Dieu avait promis à son peuple au niveau de la loi? Qu'un jour, elle ne serait plus gravée dans la pierre, mais gravée dans la chair. Si la loi est dans ton cœur, tu n'as plus peur de sortir. Si c'est ton cœur qui est gardé, tu n'as plus peur de sortir. Si après t'être restauré, laissé construire dans l'enceinte de l'Église, cette loi a été gravée dans ton cœur, tu n'as aucun problème pour en sortir et pour y revenir. Tu n'as plus. Parce que ton cœur est gardé. Et le Seigneur dit que si tu sors, tu trouves aussi ta nourriture, puisque je suis en toi. Et j'ai compris alors que le Seigneur n'avait de cesse, depuis 2000 ans, de faire en sorte que tous les enclos qu'on peut construire en son nom aient une porte, pour qu'on puisse en sortir, se rencontrer les uns les autres, et former le seul troupeau qui peut suivre le maître. Est-ce que vous me comprenez? Il n'y a aucun jugement sur les enclos. Aucun. Et les pharisiens, le levain des pharisiens, c'est des enclos sans porte. Ils clôturent le peuple. et qui l'empêche d'être le troupeau, qui peut sortir et rentrer dans la liberté que lui donne le Christ s'il suit le Seigneur. Ça m'a beaucoup interpellé. Je vous dis ça, je ne pense pas que j'aurais dit ça au début de ma vie chrétienne. J'ai eu besoin d'être restauré dans un enclos pendant longtemps, parce que j'avais besoin d'être reconstruit. Puis un jour, le Seigneur m'a dit, Étienne, très très tôt, il m'a fait rencontrer des frères et des sœurs d'un autre enclos, pas tout à fait le même que le mien. Et puis, ces frères et ces sœurs, on s'était rencontrés dans un vert pâturage, et on s'était nourris ensemble. C'était le vert pâturage de la communion fraternelle. Et de ce vert pâturage-là, on était repartis dans nos enclos respectifs. On rentrait et on ressortait. Je me souviens de mon oncle. Mon oncle, c'était un ancien de mon église. Il n'appréciait pas trop que son neveu aille fricoter avec les catholiques, aille fricoter avec les charismatiques, aille fricoter avec des gens d'un autre enclos. Puis un jour, je lui dis, tu sais, moi, j'ai rien demandé. J'ai rencontré ses frères et ses sœurs sur mon lieu de travail, dans mon école, dans mon lycée. Et je me suis aperçu que, comme moi, ils n'avaient qu'un seul désir dans leur cœur, c'est de suivre le même berger que moi. Et on partageait ensemble la manière dont on avait appris à le suivre. Et quand je rentrais dans mon enclos le soir, le dimanche, ou dans mes activités d'église, j'étais enrichi de ce que j'avais partagé avec eux, et je pouvais aussi partager aux autres. Et cet aller-retour, je l'ai vécu en permanence depuis 40 ans. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a fait comprendre cette parole. Il n'y a qu'un seul enclos, il y a une porte, et on n'a aucun risque. Notre cœur est gardé par le Seigneur. Aucun risque. On n'a pas de peur à avoir. Alors, pourquoi cette pédagogie de Dieu ? Je voudrais faire un petit cours d'histoire avec vous. Et je sais que si Pierre Guillaume était là, il dirait une chose qui m'a souvent dit qu'il avait raison. Si vous regardez l'histoire de la chrétienté depuis 2000 ans, c'est une horreur. Pourquoi ? Parce qu'on a toujours voulu considérer que notre enclos était meilleur que celui de l'autre. La seule manière d'être chrétien, c'est d'être catholique. La seule manière d'être chrétien, c'est d'être protestant. La seule manière d'être chrétien, c'est d'être dans l'église du Christ. Non. La seule manière d'être chrétien, c'est de suivre le bon berger. Ce n'est pas confessionnel. Notre identité n'est pas dans nos murs, mais pas dans nos doctrines. Notre identité, elle est en Christ, dans une personne vivante. On a besoin des murs, on a besoin des enclos pour se restaurer. Mais ils ont un rôle provisoire. Ce n'est pas notre destinée, ce n'est pas notre identité. Pourquoi je vous dis cela ? Parce que, est-ce que Jésus est venu pour installer l'Église ? Un grand théologien dit, Jésus est venu prêcher le royaume, et c'est l'Église qui est née. Qu'est-ce que Jésus est venu prêcher ? Le royaume de Dieu est proche. Est-ce que nos églises sont le royaume de Dieu ? Non. J'ai encore vu aucun mort ressuscité ici. J'ai pas encore vu des centaines de personnes guéries dans nos églises. Ce n'est pas le royaume de Dieu. Ce sont des lieux temporaires qui nous permettent d'être structurés par l'Esprit Saint jusqu'à ce que s'accomplisse notre destinée, qui est d'être membre de la Jérusalem céleste. Quel est l'appel sur vos vies ? Quel est l'appel qui retentit ? Dans le cœur de Dieu, dans toute la parole, c'est que nous sommes un peuple en exil sur cette terre. Comme le peuple d'Israël était en exil, nous sommes en exil sur cette terre. Notre véritable patrie, c'est la Jérusalem céleste qui vient. C'est celle-là notre patrie, où les portes sont ouvertes tout le temps, parce qu'il n'y a plus de nuit. Est-ce qu'on a pris conscience de cela ? Que nos églises sont temporaires, sont transitoires, elles sont nécessaires. Mais elles ne définissent pas notre identité. Notre identité est en Christ, et comme le dit Paul, mon ancre est dans le ciel. C'est fondamental aujourd'hui. Je vous livre mon cœur. C'est fondamental aujourd'hui. Fondamental pour être les témoins de ce que Dieu veut accomplir en ce temps et dans ce monde. Alors pourquoi je vous dis ça ? Parce que moi je n'ai pas peur. Je sais que mon identité est en Christ. Je sais que si je le suis... Évidemment, il va me donner un enclos pour me restaurer. J'ai besoin de la communion fraternelle. J'ai besoin de venir tous les dimanches me restaurer. J'ai besoin d'être avec des frères et des sœurs, de partager. Mais ce n'est pas cela qui définit mon identité. Nous sommes ensemble dans un même troupeau, celui de Jésus-Christ. Et c'est en le suivant, en lui obéissant, que nous disons au monde qui nous sommes.
Mon père m'a raconté une anecdote tout à fait étonnante. Mais vous allez comprendre pourquoi je vous la dis. Ma sœur a vécu 20 ans en Algérie. En Algérie, les chrétiens sont persécutés. Je ne sais pas si vous le savez. La persécution, elle est subtile. Ils n'ont pas le droit d'évangéliser. Ils n'ont pas le droit d'ouvrir de nouvelles églises. Ils n'ont pas le droit de faire de nouveaux enclos visibles. Donc, que font-ils la plupart du temps? Ils se réunissent dans les maisons, par connaissance, etc. Et mon père arrive dans la ville où habitait ma sœur à l'époque. Je crois que c'était Blida. Enfin, je ne connais pas bien l'Algérie, mais bon, c'était en Algérie. Et puis mon père, c'est un chrétien solide. C'est un chrétien, il a 85 ans, il a toujours vécu avec le Seigneur. Et pour lui, c'est important de participer à la communion le dimanche. Non pas par une habitude religieuse, parce que c'est une nourriture. On a besoin de s'abreuver. On a besoin d'aller se nourrir. Donc il sait que c'est important. Et simplement, il a dit à sa fille, ma sœur, mais où est-ce que je pourrais aller au culte? Elle lui dit, tu sais, ici, les protestants, il n'y en a pas. Il doit y avoir un curé avec une vague petite paroisse catholique. Mon père est allé le voir. Il lui a dit, écoutez, cher frère, voilà, je ne suis pas catholique, je suis protestant, mais est-ce que vous m'autorisez à venir à la messe avec vous et à partager au corps et au sang du Christ? Vous savez que si vous dites que vous n'êtes pas catholique, c'est un prêtre, qu'est-ce qu'il doit vous répondre normalement? Vous n'avez pas le droit. C'était il y a 20 ans. Vous savez que lui a répondu le prêtre? Oh là là, mon frère, vous savez, ici, nous sommes si peu nombreux. Ce n'est pas un problème pour nous. La table est commune. Est-ce que vous comprenez? Dans des situations d'extrémité, où finalement nos structures ne peuvent pas être visibles, ce qui fait que nous sommes reconnus comme disciples du Christ, c'est que nous partageons la même foi et la même espérance. Du coup, les structures et les emplois, ils n'existent plus de la même manière. Ce que je veux vous dire par là, c'est que ce que le Seigneur désire, c'est qu'il y ait un seul troupeau. Ça ne veut pas dire qu'on va renier nos identités confessionnelles, mais elles ne sont pas premières. Elles sont nécessaires. Mais ce n'est pas ça qui me définit. Souvent, mes amis me disent, Étienne, dans quelle église tu vas? Je dis, aujourd'hui, je vais avec ma femme dans l'église du Christ. C'est quoi ta confession? J'essaie humblement d'être un disciple du Seigneur. Et dans n'importe quel enclos qui porte son nom, je suis chez moi. Dans n'importe quel enclos qui porte son nom, je suis chez moi. Mais si aujourd'hui le Seigneur me demande d'être préférentiellement ici, je reste ici. S'il me demande me dit de partir, je pars. C'est à lui que j'obéis. Et j'ai cette liberté en lui. Je rentre et je sors. Et là où je suis, je resterai fidèle. Et tant que le Seigneur me demande de rester ici, je serai fidèle ici. Si demain il me demande de partir, je partirai. Quand je suis venu à l'église du Christ pour la première fois, j'ai quitté l'église où j'étais, j'ai quitté toutes les responsabilités. Parce que le Seigneur par trois fois m'a dit, Étienne, je te demande d'être un indon qui me porte et de te détacher, quitte ton père et ta mère. Mon père et ma mère, c'était la communauté qui m'avait nourri. J'ai tout quitté, je suis venu ici. C'est que dans un an, je serai encore ici. C'est que dans 10 ans aussi. L'essentiel n'est pas là. Il est d'obéir au Seigneur et à sa voix. Et si le Seigneur me dit pendant 20 ans, reste là pour te construire, je me construis là pendant 20 ans. S'il me dit toute ta vie reste dans la même église, je reste toute ma vie dans la même église. L'essentiel, c'est de lui obéir à lui. Mon frère, ma sœur, où est ton identité? En qui est-elle fondée? Elle est fondée dans la sécurité d'un emploi? Elle est fondée dans la sécurité d'une doctrine? Ou elle est fondée dans une relation vivante au Seigneur Jésus, qui vient bientôt. Tu es un peuple, tu es membre d'un peuple en exil sur cette terre. Le royaume de Dieu vient, Jésus vient bientôt installer son royaume. Est-ce que c'est cela le désir de ton cœur? Durant tout ce temps d'exil, le Seigneur va te construire, va nous construire, jusqu'à ce que nous puissions, avec lui, entrer dans cette Jérusalem céleste. Ce que le Seigneur désire, c'est que le plus grand nombre y entre. Vous savez la vision d'Apocalypse? Un peuple de toute nation, de toute race, de toute culture, et moi j'ajoute souvent de toute confession chrétienne. Ce qui compte, c'est de répondre à l'appel du Seigneur. Et là où le Seigneur nous a placés, de porter du fruit et d'être fidèles. Je loue le Seigneur pour l'Église qui m'a fait grandir. Je loue le Seigneur pour la communauté où je suis maintenant, parce qu'elle est utile pour ma croissance spirituelle. Et ce qui compte d'abord, c'est la relation à Jésus-Christ. Il fait de moi un homme libre de lui obéir à lui. Apprendre à lui obéir, à lui, au travers de la fidélité à l'emploi dans lequel il me place, dans le temps où il m'y place.
Voilà ce que j'ai appris après 40 ans de vie chrétienne. Et voilà ce que je voulais vous partager ce matin.
N'ayez pas peur. En marche, comme à Abraham. Qu'est-ce qu'il y a?
Vous savez qu'Abraham est le modèle des croyants. C'est quoi l'appel d'Abraham?
Lech lecha, quitte.
Quitte ton père et ta mère. Quitte ta famille. Pour te trouver, dit la parole, et pour me trouver. Quand on prend la traduction en hébreu.
Nous sommes un peuple en exil, un troupeau en exil, qui, de par son attachement à Jésus-Christ, quel que soit le contexte dans lequel on est placé, comme le disait Pierre ce matin,
quelle que soit la culture dans laquelle on est placé, si nous sommes fidèles au berger, nous témoignerons de lui. Notre vie sera un témoignage pour ceux et celles qui nous côtoient.
Les enclos de nos églises sont nécessaires pour que ceux et celles qui ont besoin d'être restaurés viennent et apprennent à se structurer conformément à l'appel de Dieu.
Et je terminais par une dernière phrase que j'ai apprise d'un pasteur, c'est un pasteur baptiste. Il m'a dit une phrase, j'avais 25 ans quand il a dit ça. Je vous la cite.
Étienne, une communauté chrétienne est mûre quand elle s'est laissée partir ses membres.
Il me disait oui, une communauté chrétienne est mûre quand elle s'est laissée ses membres répondre à l'appel du bon berger, même si cet appel est de quitter la communauté pour aller ailleurs. Elle est vraiment là. Une communauté qui forme les gens à entendre la voix du Seigneur. Amen.
Un message subversif. Et c'est important. C'est important de se laisser secouer un petit peu dans les habitudes. Sachez que vous voulez quitter cette communauté.